8h49, la revue de presse. Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, la dérive financière de Force Ouvrière est dans le Parisien.
Et Force Ouvrière en passe d'être ruinée, nous dit le journal dans un dossier truffé de chiffres puisés à bonne source. Force Ouvrière dont les dirigeants ne s'embêtaient pas en faisant leurs notes de frais. Le Parisien parle d'une cadre de la Confédération qui en mars 2015 avait laissé une ardoise de 11 724,90 euros à Air France et qui régulièrement enrichissait la compagnie aérienne. Et les grands chefs ne laissaient part aux chiens, ne laissaient pas leur part aux chiens. Plus de 50 000 euros de frais l'an dernier pour l'éphémère patron de FO, Pascal Pavageau, alors en campagne, et qui à peine élu a dû démissionner pour avoir mis en fiche ses petits camarades, et qui, démissionnant, expliquait qu'on avait voulu sa peau parce qu'il allait faire la lumière sur les comptes de Force Ouvrière. Et depuis, on a compris sa balance, la preuve dans le Parisien, qui s'attriste de ce qu'on lui fait faire. La faillite d'un corps intermédiaire n'est jamais une bonne nouvelle. Tout ceci se lie à un matin de grève à l'Éducation nationale, quand des professeurs partent en grève contre 2650 suppressions de postes et à la une de le Sud-Ouest, sondage à l'appui, les Français les soutiennent à 72%. Une première grève dans le jardin du populaire ministre Blanquer, une journée test pour lui, dit le Figaro. Tout ceci se lit quand l'Humanité raconte, après la Nouvelle République, ces deux syndicalistes enseignants, l'une de la CGT, l'autre tient de FO, du collège Denis Papin de Romorantin, que le rectorat suspend et fait passer en conseil de discipline, et ceci, dit l'Humanité, sans la répression. Tout ceci se lit quand des mouvements qui ne sont pas syndicaux s'échauffent avant samedi prochain 17 novembre, quand il s'agira de bloquer la France. À Orange, lis-je sur le site du Dauphiné Libéré, où 300 gilets jaunes étaient réunis hier, le porte-parole vauclusien du mouvement réclame la dissolution de l'Assemblée et du Sénat. En Seine-et-Marne, samedi, raconte Le Monde, sur le parking d'un centre commercial, on a parlé de marcher sur l'Elysée, mais sans affronter les CRS et de remettre en cause tout le système.
Et on parle de guerre également, Claude, ce matin.
Quand dans nos villes et nos villages, on s'est rassemblé hier autour de statues et de photos jaunies qui étaient nos ancêtres. À Brioude, raconte La Montagne et la Ruche, on a retrouvé dans un grenier un livre centenaire écrit par une société de gymnastique en l'honneur de ses adeptes tombés au champ d'honneur. Ce livre, hier, était au cœur de l'émotion. Mais nous sommes en 2018 et le président Macron redoute la guerre et ses dénonciations du nationalisme font les unes et les commentaires du Figaro, du Financial Times, du Dauphiné, comme de l'opinion. Emmanuel Macron, qui défend aussi la paix ou le multilatéralisme dans le cyberespace Internet. Et là, c'est une autre guerre qui fait la une de Libération. Froide encore cette guerre, mais qui a déjà commencé il y a plus de 10 ans. L'avions-nous remarqué en avril 2007, quand les services publics de la République d'Estonie avaient cessé de fonctionner. Et Libération joue ainsi les historiens du quotidien en pointant les étapes d'un conflit en cours. Et quand on recrute des cybercombattants, la France va quand même lancer cet après-midi à l'UNESCO un appel pour un cyberespace ouvert et pacifique. Le Monde, qui avait révélé cet appel vendredi, nous donne une curiosité sur son site Pixel. L'appel d'Emmanuel Macron a d'abord été rédigé par Microsoft, car la cybersécurité est un combat de Microsoft. Nos diplomates français ont bien sûr réécrit l'appel ensuite, mais enfin, l'Humanité s'étonne. Macron invente la paix made in GAFAM. Est-ce bien raisonnable, demande le journal, de donner les clés de la paix à des PDG de multinationales? Voilà bien les ambiguïtés du Nouveau Monde, mais nous ne sommes pas guéris de l'ancien. Lisez dans le Figaro, pourquoi le 11 novembre n'est pas l'enjeu de l'Allemagne, car le remords du nazisme occulte même le souvenir de la chute du mur de Berlin, occulté par la nuit de cristal du 9 novembre 1938, quand le pouvoir nazi brûla les synagogues du pays. Lisez aussi dans Sud-Ouest l'Odyssée de André Santorin de Mont-de-Marsan, qui était parti en URSS stalinienne à l'aventure dans les années 30 et qui fut pris au piège et fut au goulag entre 1937 et 1954. Un historien russe veut traduire ses mémoires qu'elle avait publiées chez nous, mais on se souvient plus, évidemment, de Solzhenitsyn.
Deux procès du djihadisme commencent à Paris.
Devant la cour spéciale d'assises des mineurs, le djihadisme qui est cette guerre que mènent de curieuses assemblées, la fratrie Bel Khaled que raconte Libération dans un article désespérant sur une sœur et cinq frères issus d'une gentille famille pavillonnaire de Vaux-en-Velin, devenue rouage de l'idéologie de la mort, ou bien dans le Parisien, ces jeunes gens de Mulhouse, copains de collège, qui voulaient se venger de la France et tuer des policiers. Demain, ce sera les 3 ans de la nuit du Bataclan et des terrasses. La Croix a rencontré un rescapé, Jean-Camille, qui dit toutes ces affres de la reconstruction, qui va avoir un enfant et qui recommence à peine à pouvoir retravailler. Dans Les Échos, l'historien Denis Péchanski, qui travaille sur la mémoire des survivants du terrorisme, explique que les survivants du Bataclan, souvent, ont dû changer de travail pour recommencer à vivre. Allons, il est de jolis instants dans notre société. Un garçon du nom du prophète, Mohamed, est proclamé génie par la Provence, car ce bon élève a eu l'idée de prendre son matelas quand un immeuble près de chez lui a pris feu, et ce matelas a permis à des familles de sauter par la fenêtre. Il est de bons instants et aussi d'innocents. Dans Les Cours républicains, ceci, hier à Chartres, des fondus de trains électriques se sont rassemblés pour une vente aux enchères de petites merveilles, certaines venant de la collection du jazzman Claude Bolling. Mais elles ont été boudées, les locomotives de Claude Bolling, parce qu'elles étaient américaines. Nationalisme, disait le président Macron.
Merci Claude pour cette revue de presse.